L'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, est une association française reconnue d'utilité publique depuis 2005, dont le but est de permettre à des personnes qui n'ont pas d'accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise grâce au microcrédit accompagné. Rencontre avec Memouna de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France.
L'association a été créée par Marianne Oac qui avait l'idée en fait que chacun peut entreprendre en fait même sans capital. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à un crédit bancaire classique, nous en fait au niveau de l'ADI on est le dernier recours. On suit que ce soit les personnes au RSA, fichier Banque de France ou demandeur d'emploi en fait, peu importe la situation de la personne, à partir du moment où elle a une compétence ou un talent, en fait elle peut venir s'adresser à l'ADI et on sera là en fait pour l'accompagner, que ce soit sur du financement ou de l'accompagnement.
Quel est le profil des personnes que vous recevez ?
Alors comme j'ai expliqué, un profil du coup assez, assez fragile. On a des personnes de tout horizon, hein, mais c'est des personnes qui sont assez fragilisées au niveau des finances et dont personne ne veut forcément les suivre. Et en fait, l'ADI est une porte ouverte pour ces personnes-là, en fait, dont personne ne veut aider.
Donc une personne qui vient avec une première idée d'un projet,
oui.
Il peut venir.
Il peut venir. Il peut venir. Ensuite... On travaille en fait avec une équipe intégrée, donc des bénévoles. On est aussi en lien avec du coup les partenaires comme Positive, avec qui on travaille énormément, qui font uniquement de l'accompagnement. Et à partir du moment où en fait la personne elle a une idée, et ben on est là en fait pour structurer son projet, pour soit voir ce qui est à compléter avec les bénévoles ou avec les partenaires, et ensuite faire la partie financement avec elle. Et c'est pas des personnes en fait qu'on lâche dans la nature pendant 3 ans, on les suit sur leur projet. On a pas mal d'ateliers qui sont mis en place aussi par rapport à ça, qui peuvent les aider, comme comment chiffrer son projet, comment trouver des clients, des ateliers sur la confiance en soi. Et en fait, ils peuvent bénéficier de tout ça et gratuitement. Ils ont vraiment, on les suit réellement. En fait, c'est un réel accompagnement.
Et qui anime ces ateliers ?
Alors, nos bénévoles les animent. On travaille avec des bénévoles. Nous, les conseillers, on peut les animer aussi si on n'a pas assez de bénévoles. Et puis voilà. Et ensuite, c'est des relations assez, parfois partenariales où là, on va travailler en fait avec d'autres structures comme les Carrefours, comme Positive, etc. où on pourra se mettre en lien pour pouvoir créer un atelier qui servira du moins pour les porteurs de projets.
Quand vous dites des bénévoles, donc c'est des gens qui sont formés ?
C'est des gens qui sont formés ou c'est des personnes qui ont déjà en fait des compétences dans le métier. Par exemple, là, j'ai un événement au centre social de l'ALMA durant la campagne de l'ADI avec une bénévole qui fait déjà ça en fait à son compte. Elle travaille beaucoup sur tout ce qui est confiance en soi. Elle est coach et donc en fait elle sera là tout simplement pour les personnes qui seront présentes, donc les porteurs de projets, pour animer en fait cet atelier. Mais ce sont des bénévoles souvent retraités qui ont déjà en fait les compétences requises dans le domaine.
Comment est-ce que vous les sélectionnez, vos bénévoles?
Alors, ils peuvent postuler directement via le site internet, donc adi.org, ou nous, dans certains événements, on peut aller à leur rencontre, comme il y avait la journée du bénévolat à la maison des associations où l'ADI était présent. Et donc, à ce moment-là, on informe que nous, on a toujours besoin de bénévoles. Il y a pas mal de bouche à oreille aussi. Et ensuite, c'est des entretiens qui sont faits avec eux. Ils nous voient sur le terrain, ils nous voient sur nos différentes missions également. Et ensuite, ils se positionnent sur ce qui peuvent les convenir, parce qu'en fait, c'est aussi un choix. Hein. Ce sont pas des salariés, ce sont des bénévoles. Il faut que ce soit une mission qui les anime aussi. Et puis, ça reste des passions. Donc, sur le volet, en fait, sur lequel ils se sentent le plus à l'aise, c'est là-dessus, en fait, sur lequel ils vont.
Oui, parce qu'il faut avoir quand même certaines compétences.
Exactement.
Pour accompagner, c'est pas donné à tout le monde.
Tout à fait. Mais le champ, il est tellement large, en fait, pour pouvoir accompagner un porteur de projet, que ça soit, tout ce qui est la comptabilité, que ça soit sur les déclarations, que ça soit sur l'assurance. Ça peut être aussi pour restructurer le projet, pour pouvoir trouver un local, comment on fait, etc. En fait, finalement, c'est tellement large qu'on trouve toujours, en fait, des bénévoles qui ont une certaine compétence pour pouvoir accompagner au mieux.
Parce que comme vous nous parliez du public, public très fragile que vous accueillez.
Oui.
Il faut aussi avoir un savoir-être.
Exactement, oui.
Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, on va dire.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'au niveau, même au niveau des salariés de l'ADI, on est embauché aussi dans ce sens, en fait. Une personne qui n'a pas forcément d'empathie, de la patience, qui n'est pas forcément ouvert d'esprit ou qui n'a pas l'habitude de travailler avec les communautés, etc., bon, bah, c'est pas forcément le profil qui sera recherché au niveau de l'ADI. On a besoin, en fait, justement, d'avoir cette ouverture d'esprit pour tous. Et je pense qu'on est tous dans cette même dynamique au niveau de l'ADI, quoi qu'il arrive.
Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France. Quels sont les principaux freins que vous constatez quand les personnes viennent vous voir? Qu'est-ce qui les freine le plus?
Qu'est-ce qui les freine le plus?
Oui, ou de quoi ont-ils peur?
Je pense que il y en a beaucoup qui ont réellement peur de se lancer. Ils n'ont pas réellement peur de se lancer, ils ont plutôt peur d'échouer. Et ensuite, il y a... Je pense que c'est des peurs qui sont transmises. Je pense pas que c'est réellement leur peur directement, mais souvent c'est lié à l'entourage, quand il y a des enfants aussi, etc. Et donc du coup c'est surtout cette angoisse au niveau financier de se dire comment je vais pouvoir faire si ça fonctionne pas, etc. Je vais me retrouver peut-être avec un crédit ou quoi que ce soit. Mais en fait, encore une fois, au niveau de l'ADI, tout est calculé. C'est-à-dire que nous, une personne qui nous demande de 10 000 euros pour un projet, si le projet n'a pas forcément besoin en fait de 10 000 euros pour commencer, qu'on peut commencer avec bien moins que 10 000 euros, et qu'en plus de ça, la capacité de remboursement ne le permet pas, on va pas aller. On est là aussi pour pouvoir raisonner un petit peu les personnes quand ils voient un peu trop grand, et puis de se dire bon, on peut commencer petit, et puis ensuite on va essayer de voir un peu plus grand une fois que ça ira un peu, quand ce sera petit déjà. Mais on les met pas en difficulté, on est là pour les aider justement, mais sans les mettre en difficulté pour autant. Et donc c'est aussi de notre rôle de leur dire quand c'est ok et quand ça l'est pas, et quand il faut revoir le financement à la baisse, ou alors tout simplement te dire bon, là un local ça va être très coûteux, mais on peut peut-être commencer l'activité à la maison. Et donc à ce moment-là, il y a toujours des portes en fait qui s'ouvrent quand on y réfléchit bien. Donc je pense que tout le monde arrive quand même avec une certaine appréhension, et puis aussi le fait de pas forcément se sentir légitime. Je pense que quand on a souvent des portes qui sont fermées et que on vient aussi avec la peur de se dire ah, mais on va me refuser une fois de plus. Mais au niveau de l'ADI, il n'y a jamais de non définitif. Ce qu'on demandera, c'est soit que la personne elle essaye un petit peu plus de se mettre dans le verre et puis ensuite de revenir parce que là, elle est trop en difficulté et c'est pas possible. Ou alors de commencer petit pour ensuite pouvoir voir plus grand. Mais il n'y a pas de non définitif, en fait, au niveau de l'ADI. Voilà.
Dans les projets que vous avez accompagnés, quels sont ceux qui vous sont restés en mémoire?
Alors, en fait, il y a tellement de projets différents. Moi, c'est pas forcément en fait le projet, je dirais, plus que c'est par rapport à la personne en fait qu'on a en face de nous, parce que le métier il est très humain en fait au final, et parfois en fait ça peut être un métier qui peut paraître banal, mais quand on connaît toute l'histoire en fait qu'il y a derrière la personne, ben moi c'est plutôt ça en fait qui va me marquer. Là par exemple, j'ai une dame, en fait, que je suis, qui vient, des dom-toms. Elle a 9 enfants et elle est arrivée ici pour pouvoir leur offrir une vie meilleure. Et donc, elle a commencé par ouvrir un restaurant avec son mari. Et c'était compliqué pour ses filles de pouvoir trouver un emploi, etc. Et donc, elle a décidé, en fait, d'ouvrir une boutique où... là-dessus, où elle va faire tout ce qui est vêtements traditionnels, en fait, etc. Et se partager le local avec ses filles pour qu'il y en a une qui fasse les ongles, il y en a une qui fait tout ce qui est coiffure, etc. Et donc, du coup, c'est devenu vraiment un projet familial. Mais quand on connaît réellement l'histoire qu'il y a derrière et les difficultés que cette dame, elle a eues pour pouvoir en arriver là, les sacrifices qu'elle a fait, et avec toute la charge en plus de ça qu'elle a derrière, de se dire « j'ai fait tout ça pour pouvoir, en fait... » pour ma famille, en fait, tout simplement. Moi, c'est plutôt ça qui va me marquer, en fait. Je pense qu'on peut faire le métier le plus extraordinaire du monde. S'il n'y a pas une histoire derrière, ça va pas valoir autant qu'une petite activité sur laquelle il y a une énorme histoire qui va derrière.
Oui, c'est le parcours.
Exactement.
C'est la progression de la personne.
C'est ça.
À travers son projet, ce qu'elle a pu découvrir.
Oui. Et puis aussi leur détermination et... la façon qu'ils ont en fait vraiment d'être capable en fait de se relever et d'aller toujours plus loin, c'est surtout ça.
Et ce qui est important aussi, c'est de retrouver la confiance en soi.
C'est ça. Ça, c'est vraiment la base de tout. D'où les ateliers confiance en soi, du coup.
Et qui anime cet atelier ?
Alors là, c'est Christine qui est notre bénévole, qui est également du coup à son compte en tant que coach. Et en fait, il y a pas mal de dames qui font de la cuisine, ce genre de choses, en fait, au centre social de l'Alma. Et on s'est dit que ça serait pas mal, en fait, de faire un événement avec elles pour leur donner confiance et pourquoi pas créer leur activité, en fait, à elles-mêmes. Là, pour le moment, elles sont dans une coopérative, mais... Si ça se trouve, il y en a certaines d'entre elles qui voudraient développer leur activité, mais qui n'ont pas assez confiance, qui se mettent des barrières là-dessus, et l'entourage qui fait que « mais c'est risqué », etc. Et finalement, en fait, à travers les peurs de tout le monde, ben, on finit par avoir peur nous-mêmes. Alors que quand on reprend confiance, ben, on se dit « mais finalement, on peut peut-être essayer ».
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées dans votre association et qui reviennent en tant que bénévoles ?
Alors, je pense qu'il y en a, oui. Maintenant, j'en ai pas en tête, mais il me semble qu'il y en a, oui. En sachant que nous, l'ADI, on est situé un petit peu partout en France. Et donc, oui, il y en a, mais personnellement, moi, j'en connais pas.
Peut-être nous dire si jamais on a besoin d'informations ou est-ce qu'on peut trouver...
Oui, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site ADI, donc adie.org, sur lequel vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne. Vous pouvez également contacter du coup notre plateforme nationale au 09 69 328 110. Vous serez mis en fait en contact avec l'agence la plus proche de chez vous, en sachant que nous sommes situés un peu partout dans les Hauts-de-France.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous intervenez qu'à Roubaix ou est-ce que vous intervenez dans la région des Hauts-de-France ?
Alors, on intervient dans la région des Hauts-de-France, donc on a plusieurs agences, dont du coup Roubaix, Lille, Valenciennes. On intervient aussi sur Dunkerque, Calais, Lens, Arras. En tout cas, près de chez vous, dans les Hauts-de-France, vous avez toujours une agence qui est disponible au plus proche.
Nous étions avec Memouna de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus Lille, 36 rue 6 FM, il y avait plus. Heureusement en France, il y a des radios libres.
Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit, mais pris comme des cœurements suprêmes, crachant mes adieux à Paris. Et me voici. Ma bonne femme, oui, foutue comme 4 sous, mon linge est sale aussi, mon âme, et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Au bon moment. Voici ce linge goût ta main. Et maintes fois, un vin amer où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, les mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise gris, rose et lilas. mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, retour mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive. Je t'aurais compté ma vie malheureuse d'affreux salaud, ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier. Mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, ton mauvais gars arrive. Au bon moment.
Laurent Michel, administrateur du club Léo Lagrange.
Alors Franck, comme Laurent, voilà.
Nordine, j'ai bien fait.
Michel,
membre de l'association et un des organisateurs.
Administrateur et membre de l'association du club Léo Lagrange font de l'inclusion une véritable force. Dès le début, depuis 17 ans, l'équipe du festival d'accordéon et nos belles bretelles à Herny dans le Valenciennois accueille des personnes en situation de handicap. Ce groupe accompagne les techniciens lors de l'installation des artistes, montage et démontage de chaque scène. La musique ici tisse des liens et crée des ponts entre les bénévoles. L'inclusion au festival des belles bretelles, quand est-ce que ça a démarré ?
Très rapidement, mais parce qu'on avait dans les équipes de direction, OCA, et dans les bénévoles, on avait des éducateurs qui étaient investis auprès d'adultes un peu différents. Et donc, ils ont fait participer les jeunes, les adultes, aux activités, en particulier montage, le festival lui-même et puis le démontage.
Franck, de les mettre au montage et au démontage, c'est un rôle précis quand même, où il y a cette rapidité, il y a cette précision. C'est un rôle qui n'est pas facile.
Non, c'est pas un rôle qui est facile. Mais après, quand on a envie, on y arrive toujours. Et ce qui particularise, par exemple, je pense tous les bénéficiaires, toutes les personnes qui sont accueillies dans les institutions et qui viennent en tant que bénévoles, comme tout le monde, sur le site des Belles Bretelles, c'est qu'ils ont envie. Il n'y a aucune différence. Ils ont envie, donc ils vont le faire, ils vont y arriver. Et puis bah voilà, si des fois on galère un petit peu, bah, c'est l'occasion d'apprendre. Et tout le monde apprend. Hein. Tous les bénévoles apprennent une nouvelle tâche en venant ici. Et ils sont comme tout le monde, ils apprennent.
Et vous insistez bien sur comme tout le monde, ces bénévoles soient comme tout le monde.
Mais ils sont comme tout le monde. La norme, c'est la société qui la pose. Nordine, il dépense autant d'énergie que Michel, on va dire, ou que Laurent sur la journée. Voilà, et plus parce qu'il est plus jeune que toi. Et très souvent, enfin, au début, les autres bénévoles disaient « Ah, bravo, c'est super, ils sont bien intégrés. » Moi, je répondais aux bénévoles, je disais « Je fais non, félicitations à toi. Tu les as acceptés, tu as été vers leur monde. Eux, ils sont tout le temps volontaires. Il n'y a pas de problème. Hein, Nordine ?»
Ouais.
T'es tout le temps volontaire, toi ?
C'est toutes les années, tous les ans.
Voilà.
Qu'est-ce que tu fais, toi, Nordine, au sein du festival ? Raconte-nous.
Je prends des enceintes, des guitares, des amplis.
Voilà.
Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ?
Mon social.
Qui t'aiguille ? Parce que t'es pas tout seul, il y a quand même une équipe derrière toi. T'es pas tout seul à monter ou démonter.
Ah, là, c'est que Franck.
Ouais. Et il y a qui d'autre avec toi ?
Yann Vossier, ouais. Mélissa, Benjamin Duval. Ouais.
Et c'est pas trop lourd, ça va, parce que c'est quand même physique.
Hein. Non, ça va encore.
Leur confier ce rôle, finalement, c'est intéressant parce que c'est aussi être au contact des artistes.
Oui, alors oui, bien sûr, ça se vit là dans le cadre du club Léo Lagrange et particulièrement du Hainaut Belles Bretelles, en contact avec les artistes. Mais ce qui est intéressant d'entendre aussi, c'est que nous, notre intention au niveau du club Léo Lagrange, on est une association d'éducation populaire. L'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'éducation populaire, c'est qu'on vive tous ensemble et qu'on partage les mêmes choses et que finalement, il n'y a pas une différence qui va se faire par rapport à un statut social, par rapport à une origine quelconque, un niveau scolaire ou autre. L'idée, c'est qu'on partage le moment avec chacun, avec nos forces, nos faiblesses, nos différences aussi. Voilà, on a aujourd'hui parlé d'éducation populaire, c'est pas forcément se référer à ce qui se faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est simplement partager des moments tous ensemble, que des gens qui sont à première vue censés pas forcément se rencontrer, se rencontrent et de par cette rencontre, finalement, apprennent à se connaître et à s'apprécier et à mieux se connaître, et que l'ouverture que ça va offrir va permettre peut-être à ce que des préjugés tombent, des représentations souvent tenues par les médias ne soient plus.
Vous l'avez vu, au cours des années, 17e édition hein, des Belles Bretelles, il y a moins en moins de préjugés, les clichés tombent.
Bah, alors ça, j'espère. J'aurais envie de le dire oui, sans que ça soit forcément très mesuré, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a encore certainement beaucoup de boulot à faire. Mais ce que j'ai envie de dire, et ce qui, enfin moi, l'expérience que j'ai assez concrète à ce niveau-là, elle date de 2009. À cette époque, pour le montage, on avait à cette époque-là une grosse une très grosse tonnelle qu'il fallait monter. Enfin, ça prenait 8 heures, c'était très lourd. C'était... Voilà, il y a donc des gens, des patients, on va dire, de la communauté thérapeutique du Cato, de l'association de la sauvegarde, qui sont venus à mon initiative, hein, modeste initiative. Et je me souviens qu'à l'époque, certaines personnes ont pu dire « mais c'est pas dangereux ». Et à la fin, ils m'ont dit « mais qu'est-ce que j'ai été con de réagir comme ça ? Je m'en veux, les mecs, ils ont été top, ils nous ont aidés ».
On avait l'habitude de mettre une caisse de Jupiler au milieu de la... Et donc, on a dû réviser un peu nos attitudes. Parce que, bien évidemment, on n'allait pas pousser au vice. Ouais. Ben ouais. Mais je veux dire, ça nécessite absolument d'apprécier la situation et de s'adapter. C'est plus pour nous, en fin de compte.
On en parlait justement pour préparer cette émission en studio en disant que vos loulous, les loulous, Franck, c'est un vrai rendez-vous dans l'année. Pour eux, c'est immanquable et ils attendent ça avec beaucoup d'impatience. Ils en parlent beaucoup hein, bien avant le festival.
Ah oui, ils en parlent beaucoup. Alors, il y a les belles bretelles, mais aussi les agités du mélange, parce qu'ils sont sur les deux fronts. Ils avaient même démarré aux agités du mélange. Ils en parlent beaucoup, et ce qui est surtout super, c'est que ça les sort de l'institution, et j'ai envie de dire, j'aime pas trop ce terme-là, de leurs conditions. Oui, 4-5 jours sur l'année, mais pas seulement, parce que maintenant, il y en a beaucoup, ceux qui ont accès aux réseaux sociaux, avec leur petit téléphone, ou alors à l'atelier informatique, ben, ils ont les contacts Messenger. Qui de Bruno, qui de Joël, qui d'un tel. Ils avaient par exemple contact de Pierrot, le contact de Bruno. Et c'est les petits messages. Comment tu vas? Comment ça? Tac, tac, tac. Et bah, y a des relations qui sont créées d'amitié. Alors que normalement, sur le papier, c'était pas possible. Parce que les gens n'allaient pas se rencontrer normalement. Et là, ils sont devenus des gens importants pour certains bénévoles. Et certains bénévoles sont devenus des gens importants pour eux. Et là, on a tout réussi.
Je vois Mélissa, justement, qui est avec nous, qui, justement, elle est toujours avec Joël, aussi, qui est une programmatrice. C'est ça, c'est un vrai duo.
C'est devenu un duo limite emblématique des Belles Bretelles. C'est que tout le monde les voit tout le temps à deux pendant les trois jours. On les voit tout le temps balader. Elles sont une image du HBB. Et ça, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique.
Peut-être Joël, un mot justement. Justement, Mélissa aussi, c'est un vrai duo. Joël qui est programmatrice.
Oui, c'était une belle rencontre avec Mélissa. Je crois que ça fait 4 ans que c'est mon assistante officielle. La première fois qu'on s'est rencontrés, tout le groupe venait travailler et on a mangé ensemble. Et puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose entre Mélissa et moi. Elle a demandé si elle avait l'autorisation de passer la journée complète avec moi, ce que son éducateur lui a donné. Et depuis, elle m'a dit « Est-ce que je peux rester avec toi, Madame Joël, s'il te plaît ?» Et j'ai dit « Mais bien sûr, tu m'es très utile, tu es mon assistante préférée. » Et depuis, chaque année, en fait, on se retrouve, voilà, elle passe tout le week-end à mes côtés. Et c'est pas des mots en l'air, parce que bah, y a des moments où on est vraiment à droite, à gauche, avec plusieurs groupes qui arrivent simultanément, on oublie toujours de prendre quelque chose. Mélissa, c'est celle qui court me chercher la gourde d'eau, c'est celle qui court me chercher le sac, c'est celle qui court chercher Franck, parce que j'ai besoin de lui, elle est indispensable. Voilà, je suis très heureuse de la retrouver à chaque fois.
Et puis Fred qui est avec nous, comment ça va Fred ?
Ça va très bien.
Alors toi, qu'est-ce que tu fais au sein des Belles Bretelles ?
Je transporte.
Ouais.
Matin de midi. J'étais à Bocoré ce matin.
Alors toi, tu es ici, est-ce que tu te souviens de ta première fois ? Quand est-ce que tu as commencé ici ? C'était il y a longtemps ?
Longtemps. Après, avant Covid. Avant Covid.
Ouais. Pourquoi tu reviens, toi, chaque année ici ?
Ah, ça me plaît.
Ouais, t'as bien ?
Oui, je travaille bien. Ouais. Pourquoi l'histoire ? J'essaie de respirer un peu l'air.
Et tu te sens exister, tu te sens vivant ici ?
Oui.
Pareil pour toi aussi, tu te sens exister, tu te sens vivant. Tu sens qu'aussi, on peut te donner des tâches à faire, qu'il y a confiance aussi.
Ouais, comme le chamboutou. Le chamboutou.
Ah oui, t'avais fait les jeux pour les enfants. Oui, parce qu'ils viennent aussi des fois pour la journée des jeux. Nordine, on lui avait laissé un stand, le Chamboultou, où il a géré, il a accueilli les enfants. Il remettait les boîtes en place, il expliquait les règles. Nordine, on peut tout à fait le laisser seul avec une tâche. Il n'y a aucun problème. Il sait communiquer avec le public, il n'y a aucun souci, quoi.
T'as aimé accueillir des enfants ?
Bah oui.
Laurent Michel, administrateur du club Léo Lagrange, Franck, administrateur et éducateur, Nordine, bénéficiaire, et Michel, un des organisateurs. Franck nous parlait ici des missions de ces bénévoles en situation de handicap.
La mission première d'un bénévole, c'est de parler à d'autres bénévoles. Sinon, si on ne se communique pas, on n'avance pas. Donc, la première qualité qu'ils ont tous, c'est cette envie d'aller communiquer, d'aller parler aux autres, d'aller partager. Donc oui, on peut leur confier après toutes les tâches qu'on veut. Du moment qu'on est dans la bienveillance entre nous, tous, qu'on soit issu d'Erny ou de Centre Serre-Fontaine de Péroué ou de la sauvegarde, peu importe. L'important, c'est de savoir communiquer. Et après, on fait ce qu'on veut. Hein.
Justement, le festival, il a évolué aussi. Et c'est grâce à tous ces bénévoles.
Oui, bien sûr. Et après, ce que je voudrais peut-être compléter aussi ce que Franck a pu dire, c'est alors peut-être moins pour les gens des structures qu'il a pu citer et desquelles viennent les personnes. Alors, voilà, par exemple, je pense que aux gens de la communauté qui viennent, ça a été un véritable terrain d'expérimentation. Il y a une année, il y a un des gars de la communauté, donc un patient hein, avec des problèmes d'addicto, qui a voulu se tester sur le bar. Et avec plus ou moins de succès, on va le dire. Mais voilà, bon, ça a été aussi des moments qui permettent pour les personnes, notamment à la communauté, de venir justement en situation particulière, se frotter, voir aussi les difficultés qui pouvaient être encore les leurs, dans un cadre quand même suffisamment contenant où les difficultés peuvent être reprises. Pas plus tard que samedi, ça a été la même chose pour un autre qui a pu effectivement s'ester dans les rapports avec les autres. C'est des situations... Dans ces structures-là, on ne peut pas les vivre. C'est que sur l'extérieur et parce qu'il y a des lieux comme ici ou avec une intention qui est la nôtre, une ouverture d'esprit qui permet ça, que les choses puissent se vivre. Et après, parallèlement, il y a effectivement un vrai plus qui est apporté parce que ben, si le festival existe et parce qu'il y a aussi des gens qui se dévouent, dont tous les bénévoles, je veux dire chacun dans sa place, dans ce qu'il a, dans son potentiel, dans la disponibilité qu'il va avoir, c'est ça qui fait qu'on arrive à ce résultat-là. Quoi.
Le Belle Bretelle est aussi un festival aussi d'expérimentation, aussi, qui a montré aussi peut-être d'inclusion pour d'autres festivals.
C'est pas le festival, le festival c'est l'outil, mais c'est l'intention qu'on a au niveau de l'asso. L'idée c'est effectivement aujourd'hui que les gens puissent être ensemble, partager ensemble, faire les choses ensemble, vivre ensemble, et éviter un peu toutes ces barrières. Enfin, nous, modestement, notre intention, c'est que les barrières qui existent, que ce soit de par le niveau, le lieu, l'origine des personnes, elles volent. Que, voilà, et qu'il n'y en ait plus, et que les gens partagent ce qu'ils ont, et se découvrent, et ont envie de se rencontrer, se parler, comme le dit Franck. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, après, on arrive à ce que des situations, modestement, je pense, évoluent, et qu'on ait des perceptions un peu différentes. Quand les représentations tombent, je pense qu'en quelque part, on a gagné.
L'inclusion au Hainaut Belle Bretelle, festival d'accordéon à Erny. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. We'll be right back.
Elle sentait si bon la lavande au matin, quand la quittant le merne débandait enfin, qu'en retrouvant sa femme. Pendant qu'elle, debout sur son vélo sans frein, reprenait la route en semant en chemin les avanies des dames. Un tour dans les prés avec l'oncle André, une fleur au boucher, une visite au curé, pour chaque soir sans retourner sur sa bicyclette. Un tour dans les lits de la France occupée, un coup pour manger, un coup pour s'amuser, mais sans que jamais son cœur ne s'arrête.
Avec plus de 30 clubs actifs, l'aïkido s'ancre solidement dans les Hauts-de-France. À Compiègne comme ailleurs, il séduit un public fidèle, en quête de calme et de maîtrise. Michel Alphonse, président du club d'aïkido de Compiègne, nous en dit plus sur cette discipline qui plaît aux jeunes de la région.
Je m'appelle Michel Alphonse, je suis président du club d'aïkido de Compiègne. J'en suis aussi un des professeurs et aussi pratiquant.
Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, expliquez-nous, l'aïkido c'est quoi? Ça vient d'où? Expliquez-nous.
Alors l'aïkido, c'est un art martial japonais. Si on veut faire un comparatif avec ce que tout le monde connaît, comme le judo et le karaté, par exemple, la grosse différence structurelle, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Pendant les cours, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de catégorie d'âge, hormis la différence entre les cours adultes et les cours enfants. Et ce sont des cours mixtes aussi, il n'y a pas de cours hommes et de cours femmes.
Et donc comment ça se passe? Comment se passe un entraînement? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
On commence toujours par un petit cérémonial de salut, en direction de ce que l'on appelle le kamisa. C'est régulièrement une calligraphie qui représente le mot Aïkido, et éventuellement une photo du fondateur. Donc un premier salut en direction du kamisa, et ensuite un deuxième salut entre le professeur et les enseignants. Ensuite, on va commencer par une période de préparation physique et mentale, avec des étirements, et ensuite le cours va commencer. Chaque cours va être différent en fonction du thème qui a été choisi par le professeur. Ça peut être des cours qui vont être dirigés sur une technique en particulier, ou plusieurs techniques, ou faire un comparatif entre une technique exercée sur un partenaire qui est à main nue, et en parallèle un autre partenaire qui va avoir un sabre en bois, un couteau en bois.
Vous me disiez que du coup il y avait des bâtons en bois, etc. Donc il y a plusieurs outils pour faire pratiquer cet art martial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, dans la majorité d'un temps de cours d'aïkido, on a régulièrement plus de travail à main nue contre un ou plusieurs, ce qu'on appelle des partenaires, puisqu'on n'a pas d'adversaire, on est dans un dojo sans compétition. On apprend à réagir face à des attaques à main nue, par exemple, soit avec des armes, un bâton en bois, un couteau en bois, un sabre en bois, ce qui permet de travailler différentes longueurs, différentes distances par rapport à ces attaques. Et on va, encore une fois, pour faire un comparatif avec le judo, par exemple, on va réagir avec des techniques d'immobilisation ou de projection.
Et donc aussi, j'ai lu que vous utilisez la force de l'adversaire, entre guillemets, pour pratiquer ce sport-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
On va plus parler de non-opposition et d'accompagnement face à une agression. On parle régulièrement, de plus en plus, on entend parler de coups de couteau, par exemple. Donc on va travailler avec un partenaire qui a, lui, un couteau en bois. Plutôt que de venir en opposition et de venir pousser sur lui, on va plutôt accompagner son mouvement, ce qui permettra de le déséquilibrer, de prendre son centre, de prendre son corps, de l'accompagner, et ensuite de pouvoir faire une technique d'immobilisation ou de projection, ou alors courir très vite, ce qui est peut-être la meilleure des techniques.
Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des femmes, des hommes, tout le monde pouvait pratiquer ce sport. Mm-hmm. En fonction de l'âge, de toutes les tranches d'âge, est-ce que les méthodes, elles changent, les méthodes d'apprentissage?
On va faire un distinguo entre les cours enfants et les cours adultes. Un cours enfant va durer un petit peu moins longtemps et on va surtout être très ludique. Si on est trop technique, comme on peut le faire avec des adultes, ils vont être vite découragés. Les enfants, il faut que ça bouge, il faut que ça joue. Donc on peut apprendre par l'intermédiaire de jeux. Chacun travaille avec à son propre rythme. Nous, en tant que personne qui reçoit cette agression, on va s'adapter. On ne va pas projeter brutalement un pratiquant débutant ou quelqu'un qui est avancé en âge qui aura du mal à chuter. Je vous rassure, notre pratiquant qui va avoir 80 ans, il fait des chutes comme moi j'en faisais quand j'ai commencé l'aïkido, et 10 ans après, et aujourd'hui, ça marche très bien.
Donc ce n'est pas un sport qui est dangereux?
Non, il y a très 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 rarement des accidents. Il peut arriver une luxation. J'ai vu une fois en 25 ans une luxation d'épaule, et puis bon, de temps en temps un orteil qui se coince entre deux tatamis ou deux personnes qui s'accrochent à un orteil, mais ça va jamais bien loin.
Et qu'est-ce qui fait de ce sport une discipline aussi populaire dans la région? Réponse avec Michel Alphonse.
Certains vont venir parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de dynamique une fois par semaine, deux fois par semaine. Une bonne quantité, je trouve, surtout chez les jeunes, on sont attirés par une culture japonaise. On retrouve, on n'en a pas parlé, mais sur la tenue d'un aikidoka, on porte un kimono comme un judoka. Et par-dessus le kimono, les gradés portent un hakama. Le hakama, c'est un pantalon d'origine médiéval au Japon, ça vous allez le retrouver si vous lisez certains mangas. Beaucoup sont attirés par l'aspect art martial japonais.
Et pour parler maintenant un petit peu des effets de ce sport-là, quand je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'effets bénéfiques sur le long terme, notamment sur le corps et l'esprit, la sérénité, tout ça. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, déjà, on ne vient pas tous à un cours d'aïkido pour les mêmes motivations. Certains viennent parce qu'ils sont intéressés par la culture japonaise, d'autres sont intéressés par les arts martiaux. Bien souvent, on a des pratiquants qui sont passés par la case judo, karaté. Comme je l'ai entendu dire une fois, bon, il y en a assez de bourriner, maintenant je voudrais travailler avec souplesse. Déjà, le fait d'avoir une activité physique régulière, ça permet de conserver un état de santé le mieux possible, le plus longtemps possible. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de compétition contre d'autres partenaires, on est juste en compétition avec soi-même, ce qui est déjà beaucoup. Ça va apprendre le respect des règles, le respect des lieux, le respect de ses partenaires.
Pour parler un peu de vous, Michel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette discipline ?
Alors moi, l'aïkido, tout à fait par hasard. Je cherchais à un moment donné de ma vie de pratiquer le kendo. Le kendo, c'est une discipline japonaise où on pratique l'escrime avec des sabres en bambou. On est habillé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ce que je croyais être une longue toge. Je savais pas que c'était. Je connaissais pas du tout ces vêtements. Je voyais ces gens habillés en noir avec leur hakama, un casque sur la tête pour se protéger des coups. Donc j'étais attiré par cette discipline. J'ai cherché dans ma région. Il n'y avait rien du tout. J'ai regardé ce qui pouvait se rapprocher le plus. J'ai regardé l'aïkido, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé l'historique. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui pouvait me convenir. Je suis allé voir dans un club, m'asseoir sur un banc pour regarder comment se passait un cours. L'enseignant est venu me voir en me disant « Non, bah, tu vas pas rester sur le banc, tu retires tes chaussures, puis tu vas monter sur les tatamis, et puis tu vas faire un cours d'essai, ça sera quand même plus parlant que d'être sur un banc. » Et ça a commencé comme ça.
Et pour terminer sur une bonne note, est-ce que vous avez une anecdote particulière concernant l'aïkido à nous raconter ?
Les 50 ans du club d'aïkido de Compiègne. Le club a été créé en 1973, je crois. On a fêté les 50 ans du club il y a 2 ans. Donc à cette occasion, on a fait revenir dans notre dojo les deux professeurs et fondateurs du club, qui nous ont passé la main il y a quelques années. On a retrouvé de très anciens pratiquants, dont un qui avait commencé une 50aine d'années dans le club de Compiègne et qui est parti dans la région PACA. Et on a fait venir des très hauts gradés aussi pour une grande rencontre nationale, voire internationale. On a eu quelques personnes qui venaient de Belgique aussi. Donc ça, on a passé une très belle journée, une grande journée de pratique ensemble pour fêter les 50 ans du club.
De Lille à Amiens, en passant par Compiègne, l'aïkido tisse son réseau à l'échelle régionale. Discret mais structuré, il séduit ceux qui cherchent un art de vivre autant qu'un art martial. Aïkido, une discipline qui s'enracine dans la région. Un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Écoute Radio Campus sur 106,6.
Oh, pour con.
Des émissions sur toutes les stations. Qu'est-ce qui nous manque ? Mais qu'est-ce qui nous manque ? On a des discours et des élections. Qu'est-ce qui nous manque ? Mais qu'est-ce qui nous manque ? On a du coca et de la bière pression. Qu'est-ce qui nous manque ? Mais qu'est-ce qui nous manque ? On a Madonna et Michael Jackson. Qu'est-ce qui nous manque ? Mais qu'est-ce qui nous manque ? Jusqu'à au micro donne sa contribution. Des rimes on fait la réquisition. Des marchandises dans les rayons. On a des produits light pour une bonne nutrition. On a du miam miam, on a du ronron. On a des journaux pour la digestion. On a toutes les chaînes de télévision. Y en a qu'un Dallas, entre les garçons. C'est ça qu'entretient le conflit des générations. Mais on a pas de pensée, pas de nom, pas de rêve et pas d'opinion. Non, 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 pas de pensée. Non. On a des buildings de grande dimension. On a des PDG plein de belles ambitions. On a des OPA pour la spéculation. On a le chômage et les délocalisations. On a des RMI contre l'exclusion. On a des SDF qui dorment dans des cartons. L'essentiel c'est de savoir pas se poser de questions. Tu grattes un ticket, tu gagnes un million. Mais un on million. A hey pas de pensée, pas de nom, pas de rêve et pas d'opinion. Pas de pensée, pas de nom, pas de rêve et pas d'opinion. Non. Du marasme à la rédemption. Surgit la lumière, la révélation. Surpopulation, chômage et pollution. Bientôt viendra la lame de fond. À tous les problèmes, la seule solution, c'est l'intelligence et la réflexion. Pour le monde, c'est l'éducation. Avec le cœur qui cogne pour la vibration. C'est la possession. On a la bombe A, la bombe à neutrons. Tu clines des paupières en moins d'une fraction. Tu passes du Moyen-Âge à la science-fiction. On a des images en définition. On a des autoroutes de l'information. On a des moyens de grande diffusion. Oui, mais tout ça, c'est pour vendre du sable. Car on a pas de pensée, pas de nom, pas de rêve et pas d'opinion. Pas de pensée, pas de nom, pas de rêve et pas d'opinion, non. Non. Non.
Tower to be tall. Radio Campus Lille